Bon, merci d'être là en présentiel. Des fois, t'as pas tout le temps le temps. Fait qu'on jase par Messenger. Mais là, t'as dit, tiens, j'ai le temps aujourd'hui. Hier, je l'avais pas, mais aujourd'hui, je l'ai. Fait qu'il est là.
Ça fait plaisir.
En chair et en os. Puis t'as eu l'occasion de découvrir les gens à la station. Hein? Les gens. Depuis le temps que tu commences à côtoyer les gens dans les stations de radio, tu trouves-tu que ça ressemble un peu à un asile psychiatrique?
Oui, mais contenu.
Des gens un peu dysfonctionnels. Il y a comme 75 sujets en même temps au travers de 6 personnes.
C'est des atomes atomiques, mais c'est ça, contenu, un peu comme dans les centrales nucléaires. T'sais, quand ils sont bien contenus, pour qu'on les siphonne à bonne manière, ça fonctionne très bien. Ils sont très utiles à la société, mais en état de liberté, des fois, ça peut être un peu spécial. Mais je blague à peine, bien évidemment.
Mais tu commences à t'habituer.
Là. Ben oui, je suis un gradué de l'école de la radio. Fait que je fais techniquement partie de cette espèce-là, si on peut dire ça comme ça. Fait que... Non, c'est vraiment du monde super sympathique, puis c'est vraiment take together, puis ça doit être des teams un peu au niveau de la radio, mais en même temps, on est toute une méchante grosse famille pareil. Là.
Exact. Et toi aussi du podcast Yann et Frank?
Oui, toujours.
Ça vire toujours?
Oui, c'est vraiment le fun. On continue d'avoir notre groupe. Là, on est en mode un peu plus, peut-être pas ralenti, mais en fait, parce que là, vu que l'été arrive, là, tant qu'il m'en met pas vite, on va arriver en mode slow news day pas mal, mais justement, ça c'est pas... C'est pas une grosse stratégie, là. C'est pas un secret des dieux, mais vu que justement la majorité des radios tombent en vacances l'été, on en profite.
Vous allez être là.
On fait du contenu pour vous autres, pour que les gens nous écoutent pendant que vous êtes pas là. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, il y a des intervenants que je faisais avec les En toute liberté, comme Karim Elayoubi, Jacinthe Everel, vous entendez sur la station et d'autres, qui ont fait le dernier de la saison la semaine dernière. Fait qu'on va les revoir cet automne. Fait que de mon côté, ça me fait un petit peu moins de job. Je me plains pas dans l'autre côté. Ouais. Mais en même temps, on focus sur des nouvelles affaires. Justement, vendredi, on part un nouveau segment d'émission avec mon ami Samuel Rasmussen. Ça s'appelle le Debug, parce qu'on avait déjà le débrief avec Samuel qui était un live le lundi soir. Là, on fait le Debug. C'est que moi et Sam, on game pendant 2 heures de temps live sur les réseaux sociaux, puis on répond aux questions des gens, que ce soit gaming, politique, philosophie, name it, en chillant vendredi
soir. Vous amusez, puis c'est ça l'important.
Ouais, c'est
ça, vous avez une formule gagnante. Bon, t'es cofondateur, de Génération Ambition. C'est quoi ça, Génération Ambition?
C'est un mouvement, en fait, conservateur, transpartisan. En fait, à l'origine, c'est qu'on n'est pas un parti politique, on n'est pas une aile jeunesse, mais on est un regroupement de jeunes. La raison pourquoi j'ai cofondé ça avec Héloïse Coulomb et plusieurs autres, c'est justement pour donner une voix dans les médias, à la fois à la radio, mais également dans les podcasts, les médias mainstream, pour que quand on a des politiques publiques, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau de quoi que ce soit, ben, que les jeunes qu'on consulte, mais c'est pas uniquement des gens d'une certaine gauche plus radicale, je dirais très écolo, très montréalocentrique, parce que des jeunes de droite au Québec, il y en a. Et c'est pas de la droite raciste ou whatever, c'est majoritairement de la droite fiscale, surtout premièrement, qui sont plus genre à en avoir plus dans leur poche, etc.
Mais ça, c'est weird, Joey. T'sais, on écoutait un segment tantôt de Jacinthe-Ève Harel, qui, comme tu l'as dit, est à la station de fois de temps en temps avec la gang de Rage Against, puis elle vous jase une fois de temps en temps dans le podcast Yann et Frank. Elle va à Montréal. Puis là, elle entend parler de l'extrême droite. Puis elle est obligée de dire, attendez un peu, là, l'extrême droite, c'est pas de l'extrême droite, là, c'est du centre droit, tout simplement. Puis à Montréal, on dirait qu'ils sont pas habitués à entendre des gens leur dire à peu près le contraire de ce qu'ils sont en train de dire, tu sais. Puis ils sont un peu comme, elle vient de dire quelque chose, elle vient de dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. Puis elle avait raison. Puis tu l'as dit tantôt avant qu'on rentre en onde, c'est comme si l'extrême gauche n'existait pas à leurs yeux.
Non,
t'sais.
C'est ça. Puis pour mettre en contexte, en fait, c'est que c'était dans l'émission de Gérald Filion que j'ai mis le montage sur mon compte Twitter pour ceux qui s'intéressent. C'est ça, c'est qu'en fait, Gérald Filion demandait à Jasmine et d'autres intervenantes, je pense que c'était Tasha Carradine puis Antonine
Iaccarini,
qui demandait justement à la suite des élections européennes qu'il y a eu évidemment en Europe et qu'il y a eu beaucoup, le Rassemblement national de Marine Le Pen a eu une majorité pour ce qui est de la France et disons pour parler européen. Puis là, Gérald Filion commence le segment. Donc, la montée de l'extrême droite en Europe. Il dit, qu'est-ce que ça vous dit, Jacinthe-Ève? Puis elle a carrément dit, ben non, c'est pas de l'extrême droite. Dernière nouvelle, les gouvernements fascistes des années 30, que ce soit Franco, Hitler, Mussolini, sont plus là, là, tu sais. Puis moi, ce qui me frustre tout le temps, c'est que premièrement, j'embarque dans le bandwagon de ma petite Bob Côté là-dessus quand il dit que l'étiquette d'extrême droite, premièrement, c'est ça, parce que c'est un peu comme un genre de gros préjugé politique. C'est comme si, puis je pense aucunement, mais c'est comme si on parlerait, à toutes les fois qu'on parlerait dans les médias mainstream des Autochtones, alors on a une montée des sniffers de gaz. C'est quoi ça? Voyons, non, comment ça? Ben, tout le monde se dit ça, mais personne se dit, c'est quoi votre définition de l'extrême droite ou de l'extrême gauche pour la même mesure? Personne peut vous dire la même affaire.
Mais j'ai l'impression qu'ils utilisent le terme extrême droite pour dire le mal.
Oui, c'est étiqueté. Comme disait Bob Côté, c'est pas pour décrire, c'est pour décrier. Quelqu'un d'extrême droite, c'est quelqu'un que la gauche haït ou aime pas. Ouais. Alors qu'au contraire, est-ce que je pense que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite? Je pense qu'ils sont assez à droite, je dirais même très à droite au niveau social. Par contre, si vous regardez le programme fiscal de Marine Le Pen, c'est une étatiste, une socialiste, une femme de gauche, fiscalement parlant. Mais non, vu que t'es... On dirait que pour les médias mainstream, c'est si t'es contre l'immigration de masse ou en général plus au niveau de l'identitaire, t'es considéré comme extrême droite, même si tu serais très socialiste, limite écologiste au niveau fiscal. Non, c'est pas important.
Mais l'immigration de masse, on le voit actuellement au Québec, là, on a reçu plus d'immigrants qu'on aurait dû en recevoir. Ouais. On les aime, les immigrants, on a besoin d'eux dans notre société, mais à un moment donné, faut bien les intégrer, tu sais, en commençant par les loger sur le sens du monde. On n'est pas capable de le faire. Donc ça, ça crée des frustrations tant chez les immigrants que chez les autres qui se disent, attends un peu, là, on je suis même pas capable de me loger moi, puis ils font rentrer encore des gens. Fait que quelqu'un qui dit, hey, l'immigration de masse, on pourrait peut-être faire attention, est étiqueté comme
raciste,
alors que c'est pas ça pantoute.
Ben, c'est qu'il y a un juste milieu entre les deux. C'est que pendant longtemps... Puis ça, c'est très historique. Là, plusieurs historiens politiques et philosophes pourront vous en parler longtemps. C'est que la gauche travailliste, qu'on a vu dans au 20e siècle et au-delà, ça a vraiment été toujours le travailleur. C'est la gauche classique qu'on a connue, qui est de moins en moins présente, qui est de plus en plus rare en Occident, c'est vraiment la gauche proche de la classe moyenne, proche de l'ouvrier. Tu sais, certains diraient de la gauche marxiste, mais ça, c'est vraiment plus à l'extrême encore là. Je ne dirais pas jusque-là. Mais au fil du temps, ils ont remplacé l'ouvrier, blanc, de la classe moyenne, parce qu'on est dans un pays nordique, il ne faut pas se le cacher, on est au Québec, là, mais dans d'autres places, c'est différent, par l'immigrant, par les minorités visibles, par ça. Puis je ne dis pas de ne pas s'en occuper de l'immigration. Oui, ça prend des bonnes techniques d'intégration, il faut lui apprendre le français, quoi que ce soit, mais c'est rendu que pendant longtemps, aujourd'hui, c'est si tu remets en compte l'immigration, vous baissez les seuils, tu es considéré comme un raciste. Ouais, mais à un moment donné, c'est pas ça. C'est
comme si on pouvait plus se parler. T'sais, avec la gang de Génération Ambition, vous êtes hyper pertinent. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Mais vous les abordez, ces sujets-là. Il n'y a pas personne qui est à côté. Raciste, xénophobe. Ouais, faut en jaser. On a besoin de combien d'immigrants par année au Canada puis être capable de bien les recevoir? On est capable d'établir un nombre d'immigrants qu'on peut recevoir puis respectons-le. T'sais, la relation avec François Legault puis Justin Trudeau est pas... C'est pas la meilleure des relations, tu sais. Puis ils en ont parlé hier d'immigration. Puis François Legault disait que les problèmes avec les logements, c'était 100% lié à l'immigration de masse au Canada. Puis il a obtenu 750 millions de dollars. Mais lui, il voulait du cash, bien entendu. Mais ce qu'on sait, c'est que les villes sont un gros problème pour ce qui est de la construction des logements, des édifices à logement. Ils ont retardé pendant plusieurs années.
Montréal,
c'est plus de 3 ans pratiquement, pour lever un édifice de terre, ça n'a pas de bon sens. Et quand la fameuse critique de Pierre Poilievre sur nos deux champions maires et mairesse en les traitant d'incompétents, à Québec, ça a changé. Au mois de décembre, ça a commencé à changer. Les gens qui décidaient, qui avaient demandé à monter des édifices à logement, ben, ils ont eu des réponses plus rapides qu'avant que Pierre Poilievre est sorti en disant « Ces gens-là, c'est des incompétents ». Eux autres étaient bien fâchés de ça.
Oh, les médias, comment osent-ils? Ils osent dire la réalité. Hey, c'est proscrit, ça, là. Ces maires-là, on les aime, ils sont de notre bord.
Mais le message a passé, tu sais. Oui. Le message a passé, puis à Québec, ça va bien. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand on dit extrême droite, c'est pas parce qu'on remet en question l'immigration de masse qu'on est automatiquement raciste.
Ben non,
au contraire, on veut leur bien à ces gens-là.
Et surtout que la vision politique des gens qui utilisent ces termes-là est incomplète complètement. Parce que autant que s'il y a un extrême d'un bord, par définition, il y a l'extrême de l'autre. Mais semble-t-il que non, l'extrême gauche, elle n'existe pas. Non, c'est la gauche militante. Tu sais, faut les comprendre, là, tu sais, Yann. Tu sais, c'est très difficile. Tandis que j'ai l'impression que, on prend un échiquier politique classique, t'as le centre, mettons qu'on y va. OK, centre. Dans le tête, c'est centre, centre-droit et extrême-droite. Tu sais, dans ma tête, moi, c'est plus centre, centre-droit, droite, très à droite et extrême-droite. Mais non, c'est tout dans... Non, là, on est rendu plus grand que ça, surtout qu'un mime qui est devenu trop populaire que Elon Musk avait posté sur son Twitter il y a quelques années par rapport à la fenêtre d'Overton. C'est, en gros, c'est un petit bonhomme qui s'était marqué « moi », qui, à l'origine, il se mettait comme peut-être centre-gauche, mais les gens ont comme changé, comme on dit, « move the goalpost », comme on appelle, puis la ligne a changé. Mettons, c'était 2010, là, mettons, 2022. Là, il était rendu... Il n'avait pas bougé, mais il était rendu comme extrême-droite parce qu'eux autres, ils ont bougé les limites à d'autres places. Enfin, je pense que pour beaucoup de gens, la réalité recommence à frapper, puis leur monde, c'est ça de Kalinours, supposément que Kumbaya, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais je pense que le réel commence à frapper. Le but, c'est de pas être altruiste, ne pas vouloir aider l'autrui. Les gens, la majorité des gens qui ont voté pour le Rassemblement national en Europe, c'est majoritairement des travaillistes, là. C'est pas du monde d'extrême droite. Le fascisme n'est pas en montant en France, calvaire, je veux pas le voir. Je dis pas que des partis plus extrêmes ou très à droite ne peuvent pas devenir d'extrême droite. Par contre, ça prend un alignement des planètes complètement hallucinant. T'sais, l'exemple classique, c'est l'Allemagne des années 30, quand Hitler a pris le pouvoir. T'sais, on était dans une période où c'est justement, il y avait eu le diktat, l'inflation, ça prenait 500 000 marques pour acheter une livre de pain. Il y avait une règle stupide au Parlement, au Parlement de Weimar, qu'à seconde qu'un parti politique élu sacrait son camp de la Chambre alors que la séance n'était pas finie, il risquait le compteur, il fallait qu'il fasse une nouvelle élection à chaque fois. Hitler en a profité. Ah, mais il a peut-être pris le pouvoir, entre guillemets, démocratiquement, mais il y a eu beaucoup d'affaires qu'il n'y a pas ici. T'sais, il n'y avait pas autant de contre-pouvoir qu'on a dans nos systèmes démocratiques aujourd'hui. Je ne dis pas d'être vigilant par rapport aux extrêmes, mais à un moment donné, il faut voir les deux côtés de la médaille.
Quand on disait qu'il n'y avait pas d'extrême gauche, tu sais, les gens actuellement qui sont dans les rues dans le secteur de Montréal puis qui dénoncent Israël avec des propos xénophobes et racistes, là, mais xénophobes, surtout antisémites. C'est quoi ça, si c'est pas de l'extrême droite?
Ben justement, Ratian en parlait hier, tu sais, les méga rassemblements, oui, supposément à Paris, contre l'extrême droite, ça n'a pas de bon sens. Dans foule, je sais pas pourquoi, il n'y a pas un mot de drapeau français. C'est tout le temps des drapeaux de la Palestine, oui, ou des drapeaux antifa ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas de l'extrême gauche, c'est de la gauche militante. C'est des gens qui sont consciencieux de l'environnement et de la société, blablabla. J'étais à Montréal il y a 2-3 semaines, je participais à un séminaire de l'Institut économique de Montréal toute une semaine, et à tous les jours, je passais devant le fameux campement pro-Palestine à McGill.
Oui, on va en parler tantôt d'ailleurs.
Puis parce que c'est la période de graduation à McGill il y a quelques semaines. Et j'ai vu plusieurs personnes se prendre en photo à côté de nos chers amis. Puis, ils ont le droit de s'exprimer. Mon but, c'est pas de les canceller. C'est qu'à un moment donné, c'est ça. J'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est du deux poids, deux mesures, parce qu'on a vu l'histoire des terrasses dernièrement à la ville de Montréal. Mais ça, c'est des gens qui ont mis ça dehors tout de suite à coup de 12 employés de la municipalité armés.
Mais je veux rester dans le débat gauche-droite. Tu sais, attends un peu, là. Les gens qui disent l'immigration de masse, ça peut être nocif pour une société si on n'a pas le temps de bien intégrer ces gens-là puis de les loger sur le sens du monde. Ces gens-là vont être dans la misère puis vont se retrouver dans la rue. Peut-être pas d'emploi, puis ils vont essayer de trouver une autre façon pour gagner leur vie qui peut être néfaste pour une société. Puis là, ben nous, on parle de ça, on se fait dire, hey, ça, c'est de l'extrême droite, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ils veulent pas de l'immigration de masse au Canada. Ils veulent essayer de contrôler le nombre d'immigrants pour être sûr, certain, de bien les intégrer. C'est nous qui sommes de l'extrême droite. Mais de l'autre côté, tu as les gens qui détestent les Juifs, qui, eux autres, sont dans la bonne gang. Sont à gauche, eux autres. C'est pas de l'extrême droite, ça. Moi, mes yeux à moi, quelqu'un qui déteste les Juifs pour les tuer, sont à l'extrême.
Ça, j'allais dire, le fascisme, l'antisémitisme fasciste, et puis à droite, il est rendu à gauche, pas mal pour pas dire. Je dis une certaine partie de la gauche, je vais quand même être indulgent, là, mais quand même. Et c'est tellement une version binaire de la société, tout blanc ou tout noir. T'sais, je dis souvent en joke, puis c'est pas voulu de faire une blague, mais on vit dans 50 nuances de gris. Puis pas dans le livre, mais tu sais, il y a tellement de nuances partout. Et par définition politique, un extrême ne peut pas être une majorité de la population, par définition, tu sais. Même dans le temps de l'Allemagne nazie, la majorité des petits soldats de la Wehrmacht n'étaient peut-être pas des extrêmes ou des antisémites. Ils ont été endoctrinés beaucoup là-dedans.
Ouais.
Mais tu sais,
ils ont fait ce qu'on leur demandait.
Ben exactement ça. Puis il y a eu beaucoup d'anthropologues qui ont parlé de ça longtemps pour dire à quel point que c'est ça, c'était comme culturel de l'Allemand de toujours obéir aux ordres, peu importe que ce soit ton père, ton professeur, ton officier de l'armée, whatever.
Même si ça n'avait pas de maudit bon sens.
Exactement. Fait que c'est pour ça que je trouve tellement que c'est spécial. Parce que surtout, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est un peu spécial, mais la troisième loi, c'est Third Law of Motion, la troisième loi de la motion de Isaac Newton dit une réaction va créer une réaction égale et opposée à cette dite réaction. Il ne faut pas se le cacher, Pierre Poilievre, il n'y aurait pas de Pierre Poilievre s'il n'y aurait pas eu de Justin Trudeau. Là, on a eu un balancier très, très à gauche. On s'entend que c'est carrément le NPD au pouvoir présentement. C'est le déficit à côté. Politique LGBT, patente plus, que je critique beaucoup, même moi qui suis ouvertement gay. Fait qu'avant de me traiter d'homophobe, attendez deux petites secondes. Mais ça pour dire que là, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup à gauche. Mais là, il y a un retour du balancier qui arrive. Là. Parce que le monde, monsieur, madame, tout le monde, qui était peut-être pas prêt il y a quelques années à voter pour quelque chose d'un peu plus à droite, plus, je dirais pas drastique, mais beaucoup plus à droite décomplexé qu'avant, mais ils se rendent compte que si on veut retourner à l'équilibrium, ça va prendre une plus grande, une médecine de cheval plus puissante que ce qu'on a là. Parce que c'est comme un chiffre, Yann. Mettons que, justement, on prend un chiffre purement pour hasard. Mettons, on prend un chiffre de 100. Mettons que Justin Trudeau arrive, OK, là, il met, justement, 100 au niveau de la gauche, puis l'équilibrium, c'est zéro. Mais là, les médias se diraient, mais là, si les conservateurs rentrent, il faut qu'ils fassent des petites réformettes, mais juste un peu, là, pas trop, parce qu'on veut pas embarquer dans l'extrême droite. OK, Pierre Poilievre rentre, il arrive, il fait juste 50 points de retour à équilibrage. On est encore à gauche, peut-être plus centre-gauche, mais là, fait que là, le cycle continue, peut-être dans 10-12 ans, un nouveau parti libéral, whatever, NPD, rentre au pouvoir, il rajoute un autre 100. On est rendu à 150. Les conservateurs reviennent dans 10-12 ans après. Encore des petites réformettes, on est rendu à 100, encore à gauche, mais c'est pour ça que là, à un moment donné, les gens comprennent, ce que les médias puis beaucoup de politiciens comprennent pas, c'est qu'à un moment donné, les gens vont retourner à l'équilibre qui était avant. Un juste milieu, puis on dit souvent, le pouvoir est au centre, mais malheureusement, le Parti libéral du Canada de Paul Martin, c'est pas tout le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau. Fait que c'est pour ça que les gens sont prêts aujourd'hui, puis on le voit partout dans le monde, à divers degrés, je comprends, on n'est pas dans les mêmes politiques, dans les mêmes politiques. On le voit à certains égards avec Donald Trump aux États-Unis, malgré que le gars, c'est pas un libéral anti-État, au contraire. Là, la joke que Frank aime beaucoup le dire dans le podcast avec nous autres, c'est que Donald Trump, c'est un péquiste américain. C'est un gars très protectionniste, très à augmenter la dette des États-Unis, très dépensier. Mais qu'on voit, par exemple, avec Nayib Bukele au El Salvador, qu'on voit avec Javier Milei en Argentine, de certaine façon, Donald Schultz aux Pays-Bas, on voit comme des microcosmes à différents égards de gens qui sont prêts à voter pour des gens un peu plus à droite, au niveau plus décomplexé, mais ils se rendent compte que, justement, si on veut retourner à l'équilibre pour faire rééquilibrer le balancier, ça prend pas des petits partis comme les Républicains ou des petits partis de centre-droit réformettes, ça prend un vrai remède de cheval parce qu'on a besoin d'un. On était trop loin d'un bord, puis les médias n'ont rien dit de ça. Oh non, on est dans le progrès, on est pour l'environnement, puis de ci, puis de ça. Fait qu'à un moment donné, les gens sont pas caves, bien, si on veut retourner à l'équilibre, bien, ça prend quelque chose de plus fort.
Quand tu étais à Montréal il y a ça quelques jours, puis tu passais à côté de la gang qui zigonnait des pancartes en disant Abat Israël, tu leur as-tu dit, tu sais, à ta communauté dont tu fais partie, que tu trouves que des fois il y a un peu de débordement, tu leur as-tu dit, où est-ce qu'on serait mieux? On serait-tu mieux avec la gang du Hamas et la Palestine, nous autres, ou on serait mieux à l'intérieur des murs d'Israël notre communauté? Sont-ils au courant de ça?
Ben, je pense que oui, mais c'est un vrai running gag, excusez-moi. Là. C'est carrément c'est les poulets en faveur du poulet Kentucky. Là. C'est les, gay for Palestine, c'est carrément le poulet pour le colonel Sanders. Là.
Parce que ces gens-là ne pourraient pas vivre en Palestine.
Non.
Ils se feraient tuer.
Pas nécessairement plus par les autorités, par le Hamas. Je pense qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont très ouverts. Mon but, c'est pas de dire que dans 90% des Palestiniens sont anti-gays ou anti-LGBT, whatever. Mais justement, au contraire, Tel Aviv, en Israël...
C'est la place.
Je pense que quasiment... Je vais pas me tromper, mais je pense que c'est entre 30 et 40% de la population de Tel Aviv est LGBT. Parce que justement, c'est comme un sanctuaire. C'est la seule place dans le Moyen-Orient que tu peux être gay ou lesbienne sans te faire couper la tête, en bon guillemets, là. Puis fait que c'est rendu un refuge, puis c'est une des plus grandes... Puis les Juifs, autant qu'ils sont très conservateurs au niveau de la religion, quoi que ce soit, mais ils sont très ouverts à ces gens-là, pareil. Fait que c'est pour ça que je me dis, puis mon but, c'est pas de vouloir être... Ah, vous devez absolument être 100% Israël, tu sais. C'est un débat très nuancé. Il y a de la faute du bord du Hamas, il y a de la faute du bord d'Israël au niveau historique. Mais le problème, c'est que c'est ça. C'est que voir ça d'un tout blanc, tout noir, malheureusement, j'ai l'impression que c'est ignorer une grosse partie de l'histoire.
Mais j'adore ton image. Tu sais, c'est la communauté LGBTQ+2 qui zigonne des pancartes pro-Hamas puis pro-Palestine. C'est les poulets qui zigonnent des pancartes PFK.
Ben oui,
dans le stationnement.
Ça n'a pas d'allure.
T'as un peu pogné deux minutes. Hey, je veux te jaser un peu des sujets d'actualité qui ont marqué Québec aujourd'hui. C'est le fameux rapport de la Caisse de dépôt et de placement qui a été rendu, on ne dira pas public tout de suite, là, c'est des
bribes
qui ont sorti dans les journaux. Ça a été fait par Express, soit dit en passant.
Oui, c'est sûr. Là.
Parce qu'on veut peut-être s'ajuster dans le rapport lorsqu'il sera rendu public. Je sais qu'il y a une partie du rapport qui a été rendue publique pour ce qui est des maires, mais nous autres, on va en avoir peut-être un peu plus mercredi, jeudi, quoique le maire de Québec...
On, On le savait, on s'en doutait depuis plusieurs semaines que des gens comme Bruno Marchand étaient déjà... Tu sais, déjà qu'il était plus de bonne humeur qu'il y a quelques semaines, déjà que c'était un gros red flag.
Pour, c'est de l'info de l'Hôtel de Ville de Québec. Là. Ça fait deux semaines qu'il y a le rapport que les journalistes ont eu hier. Ça fait deux semaines qu'il l'a sur son bureau. Il a dit une semaine plus tard que c'est pas vrai, il n'y avait pas d'information, mais le maire de Québec est un menteur.
Ben, écoute...
On ne peut plus croire en Bruno Marchand parce qu'on sait qu'à chaque mois, il était briefé par la Caisse des dépôts.
Écoutez, le dernier conseil municipal qu'il y a eu il y a environ une semaine, on voyait vraiment qu'il n'osait pas le dire. Ça se peut qu'il y ait de quoi, puis t'es comme, oh, tu marches vraiment sur le fil, mon homme. Là.
Ça va-tu être un tramway? Ça va-tu être un tramway plus léger? Ça va-tu être un valse? Ouais. Ça va-tu... Il était parfaitement au courant de ce qu'on allait apprendre cette semaine, puis il en a encore profité pour nous mentir. Mais bref, le rapport a été déposé. On s'attendait à ça il y a 6 mois, c'est-à-dire... Ben, de un, parce que les mêmes ingénieurs qui avaient recommandé le tramway au départ, c'était les mêmes qui refaisaient l'étude pour la Caisse de dépôt et de placement. Donc, ils arrivent au résultat que c'est un tramway.
Sans surprise.
Tramway modifié à certains endroits. Là, on parle de 3 phases maintenant.
J'aurais plus recyclé que modifié. La
première
parce que...
phase, c'est 5 milliards de dollars. Puis effectivement, comme tu le dis, là, on revient à la phase qui avait été présentée par le maire de Québec d'antan, c'est-à-dire Régis Labeaume, en 2018. Donc, on revient avec son idée de 2018. C'est ce qui nous fait dire qu'on a perdu énormément de temps. Et y a-tu d'autres choses qui a leaké aussi?
Ben, l'affaire du troisième lien. C'est...
Le troisième lien, oui, effectivement. Ce qui est le plus surprenant, c'est que la Caisse de dépôt et de placement admet qu'au niveau commercial, c'est assez particulier si on doit fermer le pont Pierre-Laporte pendant une journée, deux journées, peut-être des semaines, qu'on fasse le détour par le pont La Violette.
Qui est déjà dans pas très bon état, en passant. Là.
Qui est en rénovation présentement. Ben oui. Puis à ça, j'ajouterais... Puis c'est, des fois, c'est le genre de choses que j'aime jaser avec les invités qui parlent d'actualité. C'est, tu sais, on le savait qu'il y avait une problématique, là, mais quand on confrontait les politiciens, j'ai encore confronté mon chef de Ragie ce midi, puis quand il était venu, là, 4-5 mois...
Il devait être content, lui, du rapport, lui, ça.
C'est quoi le plan B, M. de Ragie, advenant le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte pour ce qui est des camions? Puis mon chef de régie, en tout respect, moi, c'est un de mes préférés. Là, je le trouve drôle, je le trouve pertinent. Il est le fun à jaser. Il m'avait regardé, puis lui, il se prononce pratiquement chaque jour là, sur ce type de dossier-là là, à Québec. Là, sur le « Ah non, troisième lien, on n'est pas pour ça », puis ouais, « Go, go, tramway ». Puis dans ses yeux, quand j'ai posé la question, c'est quoi le plan B dans le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte? Par où on passe? J'ai senti le néant. Alors que
comme un chevreuil devant des hôtes, là, tu sais, t'es comme...
Alors que ce gars-là, Joey, se prononce à tous les jours contre le projet de troisième lien, je sentais le néant, mais je me suis dit, t'es peu, là. Lui, il est pas au courant que le plan B, c'est par La Violette. Puis à ce moment-là, je lui avais appris. Puis là, il avait semblé un peu sur le qui-vive. Et il dit, ben, nos experts nous disent qu'actuellement, le pont Pierre-Laporte est correct pour supporter tout ça. Puis là, ben, je me suis dit, ouais, mais tes experts disent ça, mais ils t'ont pas parlé du pont La Violette, advenant le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte. Donc, ton dossier dans ta tête est incomplet et à tous les jours, tu te prononces là-dessus. Ça a été la même affaire pour Marc Tanguay. Marc Tanguay, qui justifiait qu'on n'avait pas besoin de troisième lien, était pas au courant non plus du plan B. Là, la Caisse de dépôt et de placement le mentionne. Au niveau commercial, ça n'a pas de maudit bon sens parce que c'est un détour de plus de 200 km, mais... Ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand on parle au service de police, quand on parle au service incendie, quand on parle au service de santé, on se partage des services inter-rives.
Ah non, puis vous avez pas d'allure. Sérieusement, moi, tu m'apprends ça, ça me flabbergasse. Parce que tu vois une carte, je suis désolé, la moitié du Québec tient à coup de scotch tape. Puis ce scotch tape-là, il s'appelle le pont Pierre-Laporte. Vous pouvez pas comprendre à quel point le jour qui arrive, n'importe quoi, une catastrophe naturelle, un attentat terroriste, name it, que le pont est plus utilisable, le Québec est littéralement coupé en deux. Ça n'a pas d'allure. Puis là, le rapport d'Infra nous dit « Ah, mais au niveau de la mobilité, c'est pas un plus-value. » Ça n'a jamais été une question de mobilité. Oui, à une légère... Je dirais, je vais me corriger. Ça l'était légèrement parce que ça évitait justement au transport lourd de passer par le centre-ville de Québec, par Capitale, etc., pour aller, pour ceux qui se dirigeaient vers, par exemple, la Côte-Nord, le Saguenay et vice-versa. Mais à part de ça, c'était justement parce qu'on voyait que le pont de Québec était en fin de vie, que justement, contrairement, je dis souvent que j'étais d'accord avec Catherine Dorion quand elle disait que le troisième lien, c'est un projet du 20e siècle, je suis d'accord, c'est en 90 qu'on a résolu le faire. En prévision, mais au Québec, on est plus genre à guérir que prévenir, malheureusement, fait qu'on est pogné avec ça. Et c'est flabbergastant. Écoute, je me rappelle, je pense que je l'avais déjà compté ici, mais peut-être que je vais le revenir. Fin de l'hiver 2019, j'étais au cégep de Lévis, je finissais mes études, et c'était après une grosse période de verglas, et il y avait des méga grosses plaques de glace qui tombaient sur le pont Pierre-Laporte, puis il y avait littéralement fermé le pont
pendant
des
heures.
Des heures, parce que là, c'était comme des poules pas de tête. La municipalité, la ville de Québec, la ville de Lévis, les gouvernements, ça n'a pas de bon sens. Là, dans le temps, il y avait encore deux traversiers. Là, on va donner le traversier gratuit parce que ça n'a pas d'allure, puis tout. Il n'y avait aucun plan. Alors que tu regardes une carte, tu vas sur Google Maps, tu dis, voyons donc, ça va de soi. Puis n'importe quel, je disais ça en joke un matin dans le podcast, vous jouez à un jeu vidéo de gestion, là, un peu comme SimCity ou whatever, puis tu commences à te face value, il n'y a rien nulle part, à part si tu commences au niveau de la ville de Québec. Ton premier pont, tu le fais où? Mais tu checkes la map, OK, il y a l'île d'Orléans. Mais c'est là que tu le fais, hein, parce que je te mets un bout de terrain, puis tu le traverses là. Et je pense que ça va purement de soi, autant au niveau de la mobilité, autant, comme tu le dis, les services. T'sais, on dit souvent, défigurer l'île d'Orléans. Je trouve ça un peu stupide parce que quand on a fait l'île des Sœurs à Montréal avec le pont Champlain, on n'a jamais parlé de défigurer l'île des Sœurs. Non, c'est correct, c'est du monde riche, on s'en fout d'eux autres. Mais pour ce qui est de ça, justement, la quantité de services que les gens de l'île d'Orléans vont pouvoir avoir venant de la rive sud, la quantité de touristes qu'on va pouvoir avoir venant de la rive sud, et justement, le fait que le pont Pierre-Laporte, du jour au lendemain, serait fermé pour X raisons plus utilisables, la quantité de services, la quantité de gens qui n'auraient plus de job. Inversement, des gens qui habitent à Québec travaillent à Lévis, ceux qui habitent à Lévis travaillent à Québec, ça serait le monde. Oui, vous allez me dire, il y a le télétravail. Oui, mais c'est pas la job de tout le monde. Je pense que sérieusement, les gens comme Gabriel Nadeau-Dubois ou peu importe, ont mis tous leurs œufs dans le béton du pont Pierre-Laporte. Puis je souhaite pas qu'il tombe. Moi, tout, je souhaite qu'il dure encore 50 ans. Mais c'est extrêmement dangereux de mettre tous nos œufs dans ce même panier-là. Parce que le jour, ce que je veux pas qu'il veut pas qu'il arrive, mais le jour qu'il pourrait arriver une catastrophe comme ça, la quantité de gens qui seraient impactés à la fois sur la rive sud et la rive nord et à travers les banlieues des deux villes...
Ça serait une catastrophe.
Une pure catastrophe qui durerait des semaines.
Donc aujourd'hui, on a le dépôt de ce... En fait, on a des brides du rapport. Je parle à mon chef de régie. Je me souvenais de la discussion que j'avais eue avec lui il y a quelques mois en lui parlant de la solution. C'était le plan B, c'était le pont La Violette, puis ça avait pas de bon sens.
Non.
Qu'est-ce qu'il me donne aujourd'hui? Il me dit, Monsieur Malsa, ça a pas de bon sens là, qu'au niveau commercial, le détour soit fait par le pont La Violette, ça n'a pas de bon sens. Mais là, je dis, mais à ce moment-là...
What's your plan?
À ce moment-là, ça prend un troisième lien. Il dit, ben là, les experts ne justifient pas le besoin...
Erreur 404!
Comment se fait-il que des
C'est idéologique. C'est vraiment de l'idéologie.
Des gens comme toi et moi, on n'est pas considérés comme des experts. Puis on fait fi de ce que les experts peuvent nous dire en disant, t'as peu, on a juste un pont fiable à long terme pour Québec. Ça va être catastrophique si on le ferme. Puis si on se fie au moment où on a dû fermer le pont totalement, le pont Pierre-Laporte, il y a eu un moment où on l'a fermé, puis là, on faisait venir des gens en hélicoptère là, de rive
ben
à rive,
oui.
Tu t'en rappelles. Il y a eu un moment donné aussi où il y a un gars qui avait décidé d'aller gratter sa guitare au-dessus du pont Pierre-Laporte.
Ouais,
on avait fermé le pont Pierre-Laporte. Ça, c'était une catastrophe. Il y a même un animateur de radio qui avait dit « Tirez-le, puis quand il va tomber, récupérez-le avec un filet.
» Si, bon, moi, je serais pas aussi saucé que ça, là.
Mais... Moi, j'étais dans mon char, puis bon, quand j'ai entendu ça, c'était ma station de radio à l'époque. Je riais jaune un peu, je me suis dit, bon, ben, je n'ai plus d'emploi. Mais finalement, ça a passé dans le beurre, ce qui est une maudite bonne, affaire. Mais c'était catastrophique. Donc, des nobody, comme toi puis moi, on se dit, hey, juste un pont à long terme, ça n'a pas de bon sens. Mais des politiciens qui se prononcent chaque jour sont incapables d'admettre que ça n'a pas de bon sens si un. Spécialiste ou un expert l'a pas dit au départ.
Hashtag les experts.
Hein, ouais. C'est toujours les mêmes qui sont consultés.
Puis c'est souvent, c'est unanime. Vous allez me dire, ah, mais la CAQ est pour le troisième lien. Excusez-moi. Là. Même, il y avait un sondage 7-8 derniers mois qui expliquait que même les gens qui étaient pour la CAQ, avaient, je pense que c'était même pas 5% qui pensaient que le troisième lien allait voir un jour à suite du revirement à 180 de Legault à suite de la partielle dans Jean Talon. Tu sais, la Geneviève Guilbeault, je l'aime bien son message d'aujourd'hui, mais c'est carrément les arguments qu'Éric Duhem proposait aux dernières élections, puis c'est carrément les arguments qui contraient ses propres arguments quand il est arrivé dans son dossier de 4-5 cartables dans sa conférence de presse il y a un an. Qui croit, rendu là?
C'est 4-5 cartables qui ne servaient absolument à rien.
Oh non,
parce que tout était numérique.
C'était des papiers blancs qu'il y avait là-dedans.
C'était pour montrer qu'elle avait travaillé fort, mais c'est elle qui était initiatrice de cette conférence de presse-là où elle annonçait que le troisième lien s'était terminé à Québec parce que les études d'achalandage ne permettaient pas de dire qu'aujourd'hui, Québec avait besoin d'un troisième lien.
Mais tout
Et
le monde...
il n'y a rien qui a changé, Joey. Il n'y a rien qui a changé de ce moment-là jusqu'à ce moment-ci. Il n'y a rien qui a changé parce que l'achalandage a augmenté une petite affaire. Et elle, ce matin, elle sort de son tombeau puis elle dit « Ouais, ça n'a pas de bon sens d'avoir juste un lien fiable à long terme pour le transport lourd. C'est irresponsable. » Alors que cet argument-là existait avant qu'elle détruise le projet du troisième lien.
Veux-tu une breaking news? Vas-y. Si le Parti conservateur du Québec n'existerait pas avec Éric Duhem à sa tête, ce message-là n'aurait jamais existé. Elle aurait dit on prend en compte les avis de la CDPQ Infra et en effet, on a besoin d'un transport structurant pour Québec. C'est uniquement pour faire pour ne pas perdre des élus au sein des conservateurs dans la région de Québec qu'elle fait ce message-là. Parce que c'est tout ce qui lui reste dans le fameux troisième lien, alors qu'il y a une méchante gang qui ont déjà débarqué. Là.
Elle veut sauver sa job.
Ouais, mais un gars qui était pas mal en danger dans son comté présentement, ouais. Ça fait c'est pas nouveau. Là. Je veux dire qu'il n'y a plus grand caquiste qui survivrait dans la prochaine élection, ça arriverait demain. Là. Mais c'est un unanimiste, parce que dans leur tête, dans la tête de nos chers experts, sont en mode de réingénierie sociale via l'urbanisme. Parce que le tramway de Québec, là, c'est une excuse. Là. Parce qu'on le voit, il y avait zéro... ça allait moins vite que l'auto, ça coûtait un bras. Au niveau du transport puis de l'entretien, ça coûtait un bras aussi. Il n'y avait pas de plus value, de valeur supplémentaire. Mais ça, c'est uniquement un fer de lance dans le but de réingénieriser la ville au grand complet pour faire la guerre à l'auto, pour forcer, coerciser la population à quitter leur char pour prendre le transport en commun. Pas parce que le transport en commun, il est mieux. Non, parce qu'on n'aime pas les chars, parce qu'on veut sauver l'environnement.
Ouais. Mais c'est le principe des villes 15 minutes.
Là. Carrément. Ouais. Fait que dans le tête, c'est comme non, on est dans un monde post-asphalte, on est dans un monde post-automobile, là, ça prend tout le monde en transport en commun. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près, ben, pour les plus vieilles générations, mais il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 50, 60 ans, on avait un ministère au Québec, ça s'appelait le ministère de la colonisation. Parce que justement, on est en dehors de Québec, puis de Montréal, puis de Trois-Rivières, on vit sur un Christi de gros territoire. Puis des chars à gaz ou pas à gaz, ça va en prendre encore une Christi de gang là, de pour demain, puis dans les prochaines décennies. Et c'est un symbole de liberté pour les gens. Je comprends que faut réduire l'auto solo, les gens peuvent faire du covoiturage, mais c'est pas avec la coercition que vous allez le faire. Si vous voulez que les gens... Moi, je suis d'accord que Québec a besoin... C'est vrai, je suis 100% d'accord, et je suis d'accord là-dessus. Québec a besoin d'un réseau de transport structurant, parce que c'est vrai qu'on manque de choses. Personnellement, je suis plus en faveur d'un métro léger, moi, qu'un tramway, parce que justement, on a un climat nordique. Tramway avec le Christy de dalle de béton qui coupe quasiment 70 intersections dans la ville de Québec, puis à Lévis aussi.
Ils vont l'abaisser, ils vont l'abaisser un peu.
Ouais, mais vieille technologie des années 60, que même les consortiums ne voulaient rien savoir de bidé là-dessus. Non, non, il faut voir l'avenir aussi. Je pense que ça prend un réseau de transport en commun. Par contre, justement, un réseau de transport en commun qui a une valeur supplémentaire. T'sais, moi, tout, je suis un gars de la Rive-Sud, je viens de Montmagny en Chaudière-Appalaches. Je suis né là, j'ai grandi là. Puis moi, tout, ça me tente d'aller dans le Vieux-Québec plus souvent. Mais le problème, c'est que c'est un fou braque de se trouver un parking là-dedans où souvent les parkings souterrains coûtent un bras. Mais si, par exemple, je sais pas, je pourrais parquer mon char à Lévis, puis il y aurait un métro léger ou un réseau de transport structurant que, justement, ça coûte pas cher, ça va vite, puis en même pas 10 minutes, je suis rendu de l'autre bord, à pied, dans le Vieux-Québec, je serais le premier à le prendre. Mais le Christy de logique du maire Marchand et toute cette gang d'écologistes-là, ce qui m'écœure, c'est que c'est pas fait un projet de transport collectif ou de transport en commun que ses propres valeurs supplémentaires, que ce soit le coût qui coûte pas cher, puis qui soit utile à l'agréable, puis qui soit plus rapide que le char, le monde va embarquer. Non, il faut forcer les gens à le prendre, même si c'est moins vite, même si c'est plus cher, parce qu'on veut forcer les gens à cause d'une maudite idéologie écologiste derrière ça. Moi, je suis en faveur de l'environnement, mais c'est pas comme ça avec du signalement de vertu que juste pour forcer les gens et les enfinchéliser leur vie, qui est prouvé. Alec Castonguay, je pense, non, Rodriguez, qui est rendu animateur de radio à Montréal, qui est ancien maire d'une des circonscriptions, l'avait dit. C'est purement simplement pour faire la guerre à l'auto, pour forcer les gens en augmentant le prix du gaz avec la taxe carbone sur l'essence. Alors que moi, je suis un gars de région, je veux d'une petite ville de 12 000 habitants. Excuse-moi, même si tu l'augmentes à 2,5 piastres le gaz, j'enlèverai pas mon char. J'en ai de besoin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait qu'à un moment donné, c'est une réalité très métropolitaine qui essaie de mettre à l'ensemble du Québec qui n'est pas une vraie réalité.
Ce que j'entends, Joey, c'est que tu es pour le transport en commun et je suis pour le transport en commun.
Tout le monde l'est!
Je voudrais m'adresser aux gens qui nous écoutent qui sont pro-transport en commun puis qui n'ont pas de véhicule. Le jour
c'est
où
correct.
Vous nous mettrez à côté de vous, de force, dans le transport en commun, qui va payer pour vos routes?
Surtout en plus si c'est électrique.
Ça va être rendu vous autres qui allez payer pour nos routes. Là, pour l'instant, vous faites le transport en commun sur nos routes, puis vous faites abstraction. Bon, vous ne payez pas d'immatriculation, vous ne payez pas de taxes sur l'essence, vous ne polluez pas, c'est parfait. Mais le jour où on sera rentré de force dans votre transport en commun, vous allez devoir maintenant contribuer à la construction de nos routes.
Et ça revient au truc du troisième lien. Puis quand je parle tantôt du monde, de mon monde post-asphalte, c'est comme ça dans leur tête. C'est que dans la tête, mettons, de QS ou de Bruno Marchand ou peu importe tout ce gang-là, Valérie Plante, c'est comme, OK, toutes nos infrastructures, ponts, name it, à part quand ils s'effondrent, là, il faut le remplacer, mais pour le reste, c'est comme, OK, c'est des droits acquis, mais là, il ne faut plus en faire. Là, c'est vraiment des nouvelles infrastructures comme le troisième lien, c'est anathème, c'est hérétique. Faut pas faire ça parce que justement, on est au 21e siècle, on est dans un monde moderne, on est dans un monde au-delà de la voiture solo, mon cher Yannick Marceau. Donc, faut aller au-delà de ça. Écoute, j'étais à Montréal, j'ai connu plein de monde que justement, ils ont pas. Il y a du monde de mon âge, de 28, 29 ans, qui n'ont pas justement de permis de conduire parce qu'ils ont vécu à Montréal toute leur vie, ils prennent le métro, ils n'ont pas de char, ils n'ont pas de permis. C'est correct. Si j'habiterais là, possiblement que moi aussi, j'aurais pas de char parce que c'est vrai que rouler à Montréal, c'est enfin chénisant pas mal. Puis c'est vrai que le métro, c'est magique. Mais c'est pas le cas de tout le monde.
Non, à Québec, si tu veux une vie sexuelle quand t'as 16 ans, ça te prend un char.
Non, même plus qu'à 16 ans, je te dirais.
T'as pas le choix, mais c'est ça que j'entends. On est pour le transport en commun, puis la majorité des gens à Québec sont pour le transport en commun. Puis comme j'ai dit à mon chef de régie ce midi, je suis pour le transport en commun, mais quand je m'aperçois que votre projet de tramway, ça va être le projet de tramway le plus cher au monde, 10 km, permettez-moi de vous dire que vous devez faire votre job et de creuser à savoir pourquoi c'est nous qui payons le tramway le plus cher du kilomètre au monde.
Et quand leur seul argument, c'est que nous, on sait mieux ce qui est bon pour vous, on va faire ce projet-là, puis inquiétez-vous pas, quand il va être fait, vous allez l'aimer. Si on ferait ça dans tous les trucs, c'est comme si tu avais un char de chenot, tu dis non, t'inquiète pas, parle au vendeur de char, il va te dire quel char acheter, puis tu vas l'aimer après 20 ans. Ah, c'est donc assez spécial.
Brassons donc un peu de marde, Joey, toi puis moi.
On n'a pas déjà commencé,
non? Non, non. Julien Arsenault, c'est un journaliste de La Presse. Il écrivait le 9 mai que la Caisse de dépôt et de placement est un peu dans le trouble avec Alstom.
Ah ben, regardons ça.
Parce qu'Alstom perd énormément d'argent, puis la Caisse de dépôt et de placement est partenaire d'Alstom dans cette belle entreprise-là. Et qu'est-ce qu'ils font, Alstom? Ben, ils font des métros, ils font des tramways.
Entreprise française. Qui ont acheté Bombardier, d'ailleurs.
Et ce qu'on sait, c'est qu'on a dû encore délier les cordons de la bourse, puis on a pigé dans les poches des Québécois pour réinvestir dans Alstom, qui ne va pas bien. Honnêtement, j'ai été voir l'action ce matin, ça a augmenté, mais la Caisse de dépôt et de placement, qui est dans une étude à savoir si on a besoin d'un tramway à Québec ou pas...
Fait par Alstom.
Qui est partenaire d'Alstom, puis que le tramway va être fait par Alstom... On peut-tu se permettre de douter?
Ah, absolument.
On peut-tu se permettre de se poser des questions?
J'irai encore plus loin. Pourquoi la Caisse doit prendre dans le bonnet des Québécois au lieu justement de prendre uniquement les rendements de ses investissements pour payer ça? Parce qu'il y a à peine un an, peut-être ça fait justement un an, la Caisse avait fait un article dans différents médias, ça a fait les nouvelles d'ailleurs. La Caisse est rendue idéologique, mon cher Yann. Donc, il y a environ un an, peut-être un petit peu moins, ils ont annoncé que la Caisse de dépôt et de placement du Québec n'investirait plus dans aucune industrie pétrolière et gazière à travers le monde. Parce qu'on est dans un monde vert, on est dans un monde environnemental. Puis alors que c'est une industrie qui skyrocket présentement, qui fait de l'argent comme c'est pas possible, t'as quasiment une mine d'or devant toi. Non, on est au-dessus de ça, on est vertueux, nous autres. On sait mieux ce qui est bon pour le monde. Puis nous autres, la recette, comme on dit, la recette du quick aux fraises, on la connaît mieux que vous autres. Ben c'est ça. Fait que la Caisse fait moins de revenus qu'avant avec ses investissements. Ils sont plus dans des investissements plus idéologiques que nécessairement purement financiers et boursiers selon les performances des investissements. Mais c'est ça que ça donne.
Parce que, tu sais, je me souviens d'une entrevue qui était dans mon ancienne station de radio avec François Legault. Puis l'animateur du matin lui avait demandé « Comment se fait-il qu'on va avoir le tramway le plus cher au monde du kilomètre? » Et François Legault avait dit qu'il regardait pas ça de même, lui.
Ah, c'est ça.
Parce qu'il se disait qu'à ce moment-là, Bombardier, qui est maintenant devenu Alstom, ben les employés qui allaient travailler sur ce projet-là allaient payer des impôts, puis ça allait revenir dans la poche des Québécois.
On vous fout, mais au moins c'est des Québécois qui vont vous fourrer.
Mais je t'annonce que dans le dossier de la construction des tramways, on n'ira pas en appel d'offres, là. je fais ma Jojo Marceau, ben oui. là, mais ça va être Alstom qui va bâtir
ben
ça.
Oui.
Et qui est partenaire d'Alstom? Ben, c'est la Caisse de dépôt et de placement. On a des intérêts là-dedans.
Ah, c'est tellement du magouillage. C'est ça. Je te gratte le dos, tu grattes le mien.
Mais puis... c'est des experts qui ont travaillé là-dessus. Ah,
tellement. Tellement de diversité, alors que les deux autres compagnies, je ne sais pas si c'était Boeing ou en tout cas deux autres, que le nom m'échappe, là, mais il y avait Alstom et deux autres, et l'autre avait carrément retiré pour dire votre projet, c'est tout croche, c'est de la vieille technologie, le marché n'est plus là. Et si vous voulez continuer à pousser un projet comme ça, excusez-moi, mais vous êtes carrément, comme on dit souvent, vous retardez le groupe. Là. Ça, c'est un terme qu'on a entendu souvent les dernières années, mais c'est carrément ça qu'ils ont dit. Là. Ça n'a juste aucun bon sens. Là. Mais ça montre encore une fois que c'est ça. Faut pas chercher de midi à 14h pour comprendre que des fois, les grands projets de société... c'est ça, c'est plus idéologique. Puis justement, on le voit, là, je pense que c'était quoi, M. Caron, je crois, là, de M. l'immobilier, M. Yves... cherche le nom, le Dupuis, ça se peut-tu? Qui a parlé la semaine passée. Oh, l'acceptabilité sociale, c'est pas important. Non, tu sais, c'est comme, faites ce qu'on vous dit, fermez vos gueules, payez vos impôts, on se reverra dans 4 ans, puis si vous aimez pas ça, c'est le fun comme démocratie. Après ça, vous demandez pourquoi le monde va plus voter. Sérieusement, surtout le gars, en plus, il est beaucoup dans les investissements immobiliers. On a pénurie de logements, puis lui, il les paye. Il n'irait pas dire que justement, on manque de logements, mais on va attendre que le tramway arrive.
J'étais chanceux que tu nommes pas son nom, mais je vais juste te dire une affaire. Okay? C'est un gars-là, il est dans plein de patentes. Il est dans plein d'organisations et il y a quelqu'un dans sa famille qui a probablement le même ADN que lui, là, okay? Peut-être quelques différences près, là, a des avantages où le tramway va passer.
Ben oui!
Puis on parle d'avantages immobiliers, puis il y a des journalistes qui le savent, ça,
puis
qui vont le voir lui, puis qui parlent pas de ça.
Non, il y a beaucoup, ça a été sorti à plusieurs égards, il y a beaucoup de subventions et de remises et de crédits d'impôt, au niveau surtout du fédéral, mais pas seulement, pour justement les logements créés via des systèmes de transport collectif.
Fait que lui, il est porte-parole du tramway, mais il dit pas qu'il y a un de ces gars qui a des avantages immobiliers à l'endroit où le tramway va passer.
Pour faire une passe de cash. C'est le fun. Hey, on est loin. On a passé d'une gauche qui était très pro-travailleur, supposément anti-système, anti-riche, qui est rendu, qui défend un projet ad vitam aeternam pour défendre des certains, je dirais pas tous, parce que les gars, comme exemple, le groupe Trudel, ils font une Christie de bonne job présentement, puis je les inclus pas là-dedans. Je pense pas que tous les promoteurs immobiliers sont des crosseurs, loin de là. Mais certains, justement, va embarquer dans le Ben Wagon, pas pour aider la ville de Québec, mais pour se faire une passe de cash là-dessus.
Parce que sérieusement, on le regardait et on disait, mais comment ça, il devient capitaine tramway? Il prendra jamais le tramway.
Il est sous roche, là.
Le gars est multimillionnaire, t'es à retraite depuis des années, il y a plein d'organisations par rapport au tramway. Qu'est-ce que c'est ça? Jusqu'à temps qu'on creuse et qu'on s'aperçoive qu'il y a des membres de sa famille qui seraient bénéficiaires lorsque le tramway sera mis en place. Écoute, c'est peut-être un hasard, Joey. Encore là, tu sais, je te parlais de l'Alstom.
Achetez-vous un auto 649 si vous pensez que c'est un hasard.
Mais c'est assez particulier. Hey, on est avec Joey Aubé de Génération Ambition. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur Génération Ambition, on peut vous retrouver à quel endroit?
On est tous sur les réseaux sociaux disponibles, TikTok, Instagram, Facebook. On a un groupe Messenger Facebook. On a également un serveur Discord pour ceux qui sont plus... on cherche la jeunesse partout aussi qui sont. Hein, fait qu'on est pas mal partout. On est en construction encore de notre site Internet, mais dans les prochains mois, il devrait être disponible. Donc, stay tuned. Puis si vous souhaitez nous rejoindre, envoyez-moi un message soit via nos réseaux sociaux ou sur mes réseaux sociaux personnels, Joey Aubé ou Joey Aubé Chroniqueur sur Facebook et Twitter.
On fait une courte pause, on vient. Marceau le soir. On est avec Joey Aubé de Génération Ambition, grand passionné de popcorn. Il y a des gens ici à la station qui ont parti la machine à popcorn. La gang chez Leclerc, t'as vu tantôt comment on est fait, on a commencé l'émission comme ça, on est un peu particulier. Donc, on a une machine à café. Café gratuit, mon homme. Hey. 4-5 cafés disponibles. Cappuccino, latte, café filtre. Puis, ils nous ont acheté aussi une machine à popcorn qui est surutilisée. Là. À chaque jour, tout le monde...
As it should.
ça fait du popcorn. Juste pour te donner une idée. Puis, je sais pas si, au départ, ils avaient pensé à ça. Puis, s'ils avaient planifié ces chiffres-là là, pour ce qui est de la machine à café. Mais en 4 mois, il s'est pris ici plus de... 4000 cafés.
Et c'est mal.
En 4 mois.
On a du monde performant à la communication.
Non, mais mets ça à 3 piastres du café, là.
Ah, c'est cashling. Vous avez des bons boss, en tout cas.
Ça peut être un avantage imposable, ça, là. Je devrais-tu dire ça à la radio?
Ils vont vous envoyer le bill à la fin de l'année. Bon, OK, toi, Marceau, t'as pris 12 cafés. Puis que...
Ben non, mais je veux dire, 12 cafés à la fin de l'année, j'en prends à peu près minimum
500.
Ici 3 puis 2 fois 4 par jour. C'est sûr que j'ai 2 chiffres.
Par jour?
Ouais, 3, 4 par jour. Fait que calcule ça, 4 fois 3, ça fait bien 12, ça.
C'est bol.
Fait que je sauve 12 piastres par jour pendant 5 jours. Fait que j'en
peine l'année. J'espère que tu t'hydrates parce que le café, c'est un diurétique. Ça enlève les flux de ton corps, ça les augmente pas.
Ouais, rendu à la maison, c'était un peu de Coors Light.
Ouais, pas mal.
Donc, Joey Aubé de Génération Ambition. Hey, il me restait à parler avec toi de quelques sujets encore. Valérie Plante ne sait plus ce qu'elle fait avec sa ville. En fin de semaine, avec le Grand Prix de Montréal, c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Des policiers armés avec des préventionnistes qui sont là du service des incendies de la ville de Montréal qui décident de fermer 4 terrasses dans le ici et maintenant. Pas hey, écoute, on va repasser ce soir, puis on va te dire quoi changer, puis demain, si c'est pas fait, ben tu pourras pas ouvrir cette terrasse-là. Ce qui est en cause, c'est des marquises. Ce qui est en cause, c'est des chapiteaux. Donc, les marquises, là, c'est un peu ce qui t'empêche de recevoir de la pluie sur la tête, là, qui peut être très près des bâtisses. Puis ça semblait déranger bien gros les préventionnistes. On a décidé de sortir ces gens-là des terrasses. C'est hallucinant ce qui s'est passé. On parle de problèmes de communication. Elle ne s'est pas excusée directement. Elle a envoyé ses sous-fifres à la télé à Montréal, à Radio-Canada, pour dire « OK, on s'excuse », mais ouais. elle l'a
Pardon,
pas fait.
Pardon, mon oncle.
Elle est persuadée que sa ville a plein de potentiel, alors que pour ceux qui ont été à Montréal dans les dernières années, c'est une catastrophe ce qui s'est passé avec cette ville-là. Il y a des endroits où c'est des zombies qui sont dans la rue. Il y a des itinérants un peu partout. La ville est sale et tout ça. On ne semble pas bien s'occuper de ces gens-là. Puis là, ben, il arrive ça avec Montréal. Elle est entachée. Elle va-tu réussir à se rendre au prochain mandat?
Autant que je n'étais pas certain hier, mais là, c'est ça. Là, premièrement, c'est assez spécial. Parce que ce que tu me parles de la fermeture des 4... Premièrement, ça, des 4 terrasses. Premièrement, supposément que le groupe de 12 pompiers, préventionnistes, whatever, supposamment que c'était organisé. Il y avait même un genre de nom. C'est comme Opération Patente.
Opération,
oui. Oh, ouais, c'était quasiment en version équipe de la SWAT. Waouh, là, on s'en va. On n'est pas à Gaza. Là, on est vraiment... On est à Rupi, là, à Montréal.
Total, tout, il était à peu près une vingtaine. J'en parlais avec Jérôme Blanchet-Gravel hier. Il était à peu près une vingtaine, puis il y avait des policiers qui les accompagnaient, là, armés. Là, puis on vide les terrasses, comme si les gens sur la terrasse étaient des criminels, comme si le propriétaire du restaurant était un criminel.
Et vous voyez vraiment, puis là, je parlais du retour du balancier tout à l'heure, à quel point la proportionnalité de la réaction d'un bord comme de l'autre est complètement différente. Qu'on parle du camp pro-Palestine, je sais que ça a quand même brassé
McGill.
C'est à McGill. Qu'on parle justement en général de l'itinérance ou quoi que ce soit, ou justement de la criminalité à Montréal qui a beaucoup augmenté dans les années, et juste 4 terrasses, on envoie quasiment 12 agents. Ah non, c'est flabbergastant. Puis écoute, là, ils ont envoyé, comme tu l'as dit, ils ont envoyé le représentant, un no-name que personne ne connaissait, puis là, ils ont envoyé les agneaux sacrificiels, malgré qu'ils ne sont pas tant sacrifiés que ça, 2 employés suspendus avec salaire. Hey, méchante, méchante punition.
Bah, des fois, ça peut être la honte de te faire suspendre. Là, quand tu te fais suspendre, leur nom est sorti dans les médias, fait qu'on va se souvenir de ça. Je pense pas qu'ils se fassent sacrer dehors pour ça, honnêtement. La commande venait d'en haut.
Ouais, les médias demandaient du sang, puis étaient unanimes là-dessus. Ils ont donné 2-3 morceaux de viande, puis reste à voir si vont être assez affamés encore après, mais sérieusement, Valérie Plante aurait dû démissionner de
cette histoire-là. Mais pourquoi c'est si facile de vider 4 terrasses pendant le Grand Prix, mais McGill, là, les camps qui sont faits avec des tentes, puis il y a des petits feux qui se font au travers, puis des panneaux de bois qui sont volés un peu partout pour des rénovations à travers la ville de Montréal. Pourquoi les préventionnistes, ils vont pas là avec les pompiers?
Je pense que c'est beaucoup une question d'image. Je connais pas toutes les... Je connais pas tous les restaurants qui ont... Le terrasse était fermé, mais je sais que c'était beaucoup des restaurants, je sais qu'il y avait de l'italien à travers de tout ça. Disons que si ça aurait été des restaurants, mettons, de certaines minorités visibles, ou certaines parties du monde souvent plus marginalisées, ou par exemple, s'arrêter des restaurants du village gay, par exemple, est-ce qu'on aurait eu une aussi grande proportionnalité de réponse à l'hypersécurité?
Y aurait-tu fait ça au festival de jazz, aux francophonies?
C'est ça.
Hein? La question
se pose, pour être bien franc, là. Puis sérieusement, écoute, je ne veux pas faire de la pub nécessairement, mais Valérie Plante, elle a répondu, en grand guillemets, elle a été au micro de Paul Arcand à Montréal hier, puis même, écoute, Paul Arcand, personnellement, c'est pas l'intervieweur, je trouve, le plus challengeux, mais même lui, en comparaison avec ce qu'elle répondait, ça avait quasiment l'air d'un gars fou braque, là, parce qu'elle arrive là, elle demande, savez-vous qui a donné l'ordre, c'était quoi la raison pourquoi ça a été fait ça, puis ça a été un 18 minutes de, je suis venu répondre à vos questions, mais juste pour vous dire qu'on va faire un post-mortem demain, puis je suis pas au courant, puis tout va bien à Montréal. C'est merveilleux. Sérieusement, on voit la limite des capacités de Valérie Plante, qui est vraiment une mairesse.
C'est le principe de Peter.
Oui, c'est ça. C'est le principe de Peter. Puis
elle est capable de monter.
Elle est plus capable de monter. Puis malheureusement, ce qui est le plus grave, c'est qu'on n'a pas de position claire. Mettons, genre de quelqu'un plus de droite fiscale qui se présenterait à la mairie de Montréal. Il n'y a personne présentement. Autant que présentement, le champ est ouvert. Si quelqu'un m'écoute, quelqu'un a le goût d'y aller, allez-y si vous avez une chance d'y aller. Mais présentement, les oppositions ne sont pas rassemblées. Souvent, elles ressemblent beaucoup à ces idées. Fait que quelqu'un pour vous dire faire le ménage, tu sais, quand il y avait là, c'est pas mal réglé, mais quand il y avait eu l'histoire de la guerre, de la pseudo-guerre civile à Québec solidaire, il y a du monde qui sortait Gabriel Nadeau-Dubois comme potentiel futur maire de Montréal. Êtes-vous malade?
Fait que le gars qui condamnait pas les violences pendant les carrés rouges qui étaient dans les rues, là, lui, on va le mettre maire de Montréal. Il a jamais travaillé de sa vie, puis on le voit maire de Montréal.
Ben même j'ai vu des gens hier sur Twitter mettre le nom d'Elsie Lefebvre comme futur mairesse de Montréal. Je veux pas être méchant, mais si elle ou Gabriel Nadeau-Dubois devient maire de Montréal ou mairesse de Montréal, Montréal va se transformer en maire d'Ocqueville dans pas grand temps. Là. Ça va être vitesse grand V. On le voit déjà, il y a un exode. Même Paul Larkin l'a dit. Vous comprenez-vous qu'il y a des gens qui la seule raison que Montréal se sauve, entre guillemets, c'est l'immigration qui reste sur l'île. Le reste, les gens quittent, s'en vont dans les banlieues. Pourquoi pensez-vous que le quartier 10-30 ou Saint-Basile-le-Grand ou Saint-Bruno-de-Montarville sont en augmentation de population puisque le monde ne sont plus capables? Tu sais, ils sont plus capables du tout, autant au niveau justement de la laideur de la ville. C'est pas propre au niveau de l'itinérance, mais également de l'enfantchénisation, de la surtaxation, puis les espaces verts, puis les quartiers, puis les trottoirs éponges, puis les affaires de main. On est dans l'idéologie à planer.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de politiciens qui étaient politiciens et politiciennes qui étaient capables de prendre une ville en charge, comme une mairesse Boucher, qui n'était pas parfaite, qui n'avait pas juste des qualités, avait quelques défauts, mais était capable de compter, était capable d'être gestionnaire, était capable d'avoir une vision à long terme d'une ville, à un Bruno Marchand ou encore une Valérie Plante qui sont pas issus du monde des affaires nécessairement, qui savent pas vraiment compter. C'est pas des meneurs d'hommes, c'est des gens qui ont été mis en place. Puis tu te dis, était peu, là, c'est ça. Ils ont géré quoi dans leur vie? Ils ont absolument rien géré, si ce n'est que de quêter. Là.
Je pense que là-dessus, il faut le dire, c'est un peu de notre faute. Puis quand je dis un peu, je parle pas de nous autres, je parle pas juste, mettons, la droite ou whatever, je parle des gens en général. Il faut se le dire, il y a eu une baisse constante du taux de votation, taux de participation au vote aux élections municipales depuis plusieurs années. Puis plusieurs, autant que... C'est un petit peu moins présent dans les villes, malgré que j'ai déjà entendu une de mes conseillères municipales à Montmagny me dire que Montmagny allait avoir des réfugiés climatiques. Là. Une petite ville de 12 000 habitants sur le bord du fleuve, là, tu sais. Oui, ça arrive. Fait que ça peut être partout, là. Puis politique EDI, name it. Je pense que vraiment que, justement, pendant que nous autres, on s'occupait moins du municipal, bien, des gens plus radicaux, on se sont faufilés entre les lignes, ils ont profité du faible taux de participation pour faire passer des idées plus radicales. Et malheureusement, ces gens-là, autant ils étaient bien fins, bien idéologiques, mais souvent, ils n'ont pas eu une vision de la politique qui pensait qu'elle allait être. Ils pensaient qu'elle allait arriver là, puis elle allait être carrément des petits roitelets, puis, mm-hmm. puis des petits seigneurs devant le paysan, puis on va faire tout ce que vous dites, puis si vous êtes contre moi, vous êtes incivil. Vous êtes incivil, vous n'êtes pas respectueux envers les élus qui a amené le fameux projet de loi adopté par la ministre Duranceau la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'il y a eu, selon moi, une très forte hausse de démission de la dernière vague d'élus municipaux, parce qu'il y a eu beaucoup de militants, beaucoup de gens très idéologiques qui pensaient arriver là comme ça allait être tout cuit dans le bec. Finalement, ils se sont rendus compte que, hey, on est en démocratie, il y a des oppositions, ça se peut que tu fasses challenger, ça se peut que tu fasses pas tout ce que tu voulais faire. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça.
Mais est-ce que quand tu vas en politique, tu vas là pour toi, pour tes propres intérêts, ou tu vas là pour rendre service pendant 4 ans, pour le bien-être de ton peuple, pour que ta ville se développe, pour réaliser ce que l'ensemble des citoyens de ta ville aimeraient que tu réalises? Parce que, tu sais, je regarde Bruno Marchand à Québec. Quand il est arrivé, honnêtement, c'était 1% des intentions de vote pour lui. Il n'y a personne qui le connaissait. Il a fait quelques promesses. Il était sur le gros bon sens. Puis on s'est dit, OK, ben ce gars-là pourrait être considéré.
Même moi, je le trouvais sensé durant la campagne électorale.
Maire de Québec. On savait d'où il venait. T'sais, un gars avec un grand cœur, qui a travaillé pour Centraide. Centraide, mais avant, c'était Prévention du suicide. Donc, tu sais, c'est deux organismes qui sont très respectables, mais n'en demeure pas moins que le gars, c'est un quêteux. Puis, il gérait pas vraiment. C'était pas lui qui gérait.
Ah, puis c'était du jour et la nuit, là, du Bruno Marchand, campagne électorale, versus Bruno Marchand, maire de Québec.
Il s'est transformé. Puis maintenant, ben, l'acceptabilité sociale, lui, il s'en crisse comme dans la carence. Ce qui est important, c'est de faire passer ses affaires. Puis, tu sais, moi, là, l'histoire sur la Chine, là, Ça n'a jamais passé, Joey. Là.
Ah non, puis là...
Quand il a dit que regardez ce qu'ils font en Chine, quand ils ont des idées, ils les font passer rapidement. Puis faut... ça, c'est respectable. T'es peu, là, c'est une Chine communiste.
Puis il n'y a quasiment pas de médias qui ont challengé ça auprès. Je pense qu'il y a eu Novo un peu, mais à part de ça, Radcan, TVA, en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup.
Mais c'est atroce. Là.
Ça n'a pas d'allure. Là.
Tu peux respecter la Chine pour, je sais pas, son efficacité dans telle affaire, mais dans sa communication avec le gouvernement en place, parce que si t'es contre le gouvernement en place, tu peux tout simplement disparaître.
Mais si Éric Duhem parle des bonnes valeurs du gouvernement du Turkménistan, qui est une dictature, à seconde, de voir 15 articles de journaux pour dire que c'est un mange-marde.
Oui, oui, exact.
C'est dans le monde dans lequel on vit, mesdames et messieurs, que je voulais que je vous dise. Mais pour venir à ta question par rapport à ce que les gens ont oublié, comment faire de la politique, je pense que oui. Puis je parle pas juste au municipal, je pense vraiment à travers... Vous allez me dire, peut-être que vous allez me trouver un peu idéaliste, là, mais je pense qu'au niveau municipal, provincial, fédéral, j'ai l'impression que les gens ont oublié qu'aller en politique, c'est un contrat aussi. Puis c'est un sacrifice de soi. Je dis souvent, puis vous allez me dire, les politiciens de Joey sont pas en tout là-dedans aujourd'hui, je le sais, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un le rappelle aussi. C'est que la politique, c'est une vocation, c'est pas une profession. Et le principe, justement, que on avait des élus dernièrement là, qui disaient, ben là, j'ai moins de temps, j'ai moins de vie privée, puis de ci, puis de ça, faut que les gens respectent ma vie privée.
Ben,
oui.
L'ex-député de Jean Talon, là. Qui quitte parce qu'elle ne peut pas être ministre. Bon, on peut la comprendre.
Ben, je la comprends.
Elle regardait Éric Kerr, elle se disait « Pourquoi pas moi? »
Elle était plus qualifiée qu'Éric Kerr, pas ton numérique, pour être bien franc. Là,
pourquoi voilà. Lui? Elle a décidé de quitter pour des raisons « entre guillemets familiales », mais on s'est aperçu qu'elle s'était trouvé une job entre-temps pendant
deux,
son
deux semaines
mandat.
Après, elle était à Joute. Là, ben oui, c'est ça.
Puis là, elle était à Joute, puis en plus, elle a fait d'autres apparitions pendant le jour à LCN. On se rend compte que cette fille-là, tout ce qu'elle voulait, c'était se sauver de la politique, là.
Ben en fait, c'est qu'on a sûrement offert un anan qui n'est pas justement arrivé le moment que c'est arrivé, puis on l'a ignoré. Elle a fait son bout de temps parce qu'elle a créé son camp. Rendu là, je peux comprendre un peu. Mais justement, dans le contrat politique, c'est tout ça. Écoutez, le principe de la démocratie représentative, c'est justement qu'on fait élire des gens pour nous représenter à l'Assemblée nationale, parce que justement, on n'a pas le temps de faire ça. Les gens travaillent, les gens ont des familles, les gens ont des vies. Mais justement, le principe des politiciens... Contrairement à ce qu'ils nous disent, qu'ils font 75-80 heures semaine, excusez-moi, mais quand tu as des ministres qui ont le temps d'écrire des chansons, d'écrire des romans, là, oui. On s'en repassera. Là, que...
Et Catherine Dorion qui avait dit ben, si ça me tentait pas de rentrer, si ça me tentait pas de travailler, personne
ben
qui
s'en
rendait
compte. Claire Sanson, même chose, elle l'a quasiment confirmé aussi. Là-dessus, il faut lui donner. Oui. Non, c'est vraiment ça. Puis c'est beaucoup galvaudé par souvent les médias de la colline parlementaire, parce que tu as des grands chemins. Puis tu dis oh non, ils travaillent fort. Ouais. Ta définition de travailler fort, c'est juste 15 heures semaine. On repassera. Mais justement, le principe de te présenter en politique puis de représenter tes gens, c'est justement c'est un sacrifice de soi. C'est que justement, tu sacrifies une partie de ta vie privée, une partie de ton temps personnel et de ta vie en général au bénéfice du collectif, au bénéfice des gens que tu représentes. Parce que ça en prend un qui soit l'anneau sacrificiel puis qui ait moins de temps en famille, qui ait moins de temps à faire ce qu'il veut dans sa vie personnelle à lui. Parce que justement, il faut que tu représentes ton monde. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut que tu sois disponible. Mais ça, beaucoup de gens, beaucoup d'élus l'ont oublié. Là, c'est vraiment, c'est qu'on arrive avec nos idées. Puis, dernièrement, un économiste qui était dans le trio économique, dans Yann et Frank, qui s'appelle Germinal, je me rappelle son nom de famille, en tout cas, il était avec Vincent Gelozo et Yann, dans Yann et Frank, et lui expliquait, il disait, la différence purement simpliste entre la gauche et la droite, c'est que la gauche juge les politiciens par leurs intentions, la droite les juge par leurs résultats.
Par leurs faits, oui.
Je pense qu'en général, il faut retourner à ça, mesdames et messieurs, juger un politicien, pas par ce qu'il dit, dites-les par... Comme on, c'est quasiment biblique, là, le serment de la montagne, jugez-les par leurs fruits. Mais c'est carrément ça. Ça date pas d'hier.
C'est très bien dit.
Puis la nouvelle mairesse ultra écologiste de Gatineau qui vient de lire, elle a l'air super fine, elle a l'air super cute, mais écoutez-la parler deux secondes, et alerte rouge. Puis le pire, c'est qu'on parlait que l'ancienne mairesse était partie à cause d'intimidation, pas de ses citoyens, par rapport au parti d'élus que la nouvelle mairesse faisait partie. Puis là, elle a dit récemment dans une entrevue à Radio-Canada qui dit carrément que là, toutes nos décisions du conseil municipal vont se faire en fonction de la crise environnementale à Gatineau.
Ah non, c'est du grand n'importe quoi. Joe O'Bé, ça a été un plaisir. On va reprendre ça dans quelques semaines, yes. Mon ami, si tu le veux bien. Joe O'Bé, Génération Ambition, on vous rejoint comment?
Sur Twitter, partout, toutes les réseaux sociaux possibles, TikTok, Instagram, Twitter, Discord, Facebook. Facebook, si vous voulez nous rejoindre, contactez-nous sur toute cette plateforme-là, si vous voulez nous rejoindre également. On est en train de terminer notre site Internet. On est en train également aussi de continuer à faire des consultations pour écrire notre manifeste. En fait, c'est un peu nos fameuses valeurs qu'on va voter démocratiquement, qu'on va mettre sur papier pour défendre par la suite. Présentement, je vous dirais que c'est moi et Héloïse Coulombe, qui est co-porte-parole, qui en général font plus la promotion de ça. Je vous dirais qu'à 95%, je suis pas mal dans le bouillisette de ce que nos membres représentent. Mais justement, sachant que c'est un mouvement transpartisan, on a des gens, oui, du PCQ, mais également des gens du Parti libéral du Québec et d'ailleurs. Puis le but, c'est de donner une voix à la jeunesse québécoise qui est plus de droite, anti-wokiste, qui est pro la méritocratie des gens et qui est à bout du maudit signalement de vertu. Puis sont à bout que justement, quand on entend parler de les jeunes dans les médias, c'est justement des jeunes de gauche très militants qui ne représentent pas leurs idées.
C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. On se reparle demain 11h pour ce qui est de Mars sous le midi. Merci d'avoir été là.